nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Si la musique n'est pas née au Moyen-Âge, loin s'en faut, c'est néanmoins à partir de cette époque que l'on a commencé à noter systématiquement la musique. Certes, il existait des notations grecques anciennes, des formes de notation des sons, mais pas véritablement une notation de la musique. Et les spécialistes considèrent qu'en vérité, elle est venue assez tard dans l'histoire occidentale de l'écriture, car la musique, on se la transmettait oralement de génération en génération. Alors pourquoi, à un moment donné, a-t-on éprouvé le besoin de passer ainsi d'une transmission orale à une véritable forme écrite ? Quelles sont les formes prises par la musique au Moyen-Âge ? Pour nous aider à réfléchir à ces questions, il fallait bien évidemment le concours d'un médiéviste et j'ai le plaisir d'accueillir M. Michel Zinc, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur au Collège de France, où il tient la chaire de littérature médiévale, littérature de la France médiévale, on dit, et auteur de nombreuses publications, œuvres personnelles, directions de dictionnaires, collaborations à de savants ouvrages, tous relatifs évidemment à cette période. Monsieur Zinc, bonjour.
Bonjour madame.
Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie, malgré toutes vos activités, que
c'est
je sais nombreuses. Si vous ne vous reconnaissez pas comme musicologue, je note néanmoins que vous êtes membre du conseil scientifique du Centre de recherche sur la musique médiévale de la Fondation Royaumont.
C'est vrai. Je ne peux pas le nier.
Et que parmi vos ouvrages, certains portent des titres qui semblent directement liés à la musique. Par exemple, votre tout premier livre, La Pastourelle, qui a été suivi d'un autre, Chanson de toile, et encore un autre, Le Moyen-Âge et ses chansons, ou Un passé en trompe-l'œil. Alors tout de même, pour n'être pas musicologue, est-ce qu'on peut être médiéviste sans s'intéresser à la musique ?
Non, on ne peut pas. C'est pourquoi, dès qu'on s'occupe de poésie du Moyen-Âge, il faut bien s'occuper de musique, puisque la poésie du Moyen-Âge est à l'origine uniquement chantée. Bien plus, la littérature du Moyen-Âge, tout entière, comme à toutes les époques, ou au début de toutes les littératures, la littérature française est apparue d'abord, ou la littérature française, ou la littérature vernaculaire du Moyen-Âge, dans toutes les langues vulgaires du Moyen-Âge, est apparue comme une littérature en vers. La prose littéraire n'apparaît que plus tard. Et non seulement cela, mais c'est une littérature entièrement chantée. Les premières formes littéraires de notre littérature sont la chanson de geste, l'épopée, mais la chanson de geste est chantée, et la poésie lyrique des troubadours et des trouvères, qui est chantée également. Il faut attendre les premiers romans, qui sont en vers, mais qui sont récités, pour avoir une poésie qui n'est pas chantée. C'est une première raison. Et la deuxième raison qui oblige tout médiéviste à s'intéresser un petit peu à la musique, c'est que la musique sacrée, le chant grégorien, puis d'autres formes de musique sacrée connaissent un grand développement au Moyen-Âge. Et dans une civilisation qui tourne autour, si l'on peut dire, de la liturgie, de l'alénie liturgique, du service de Dieu tout au long de l'année, eh bien, cette musique sacrée a une place extraordinaire qui influe d'ailleurs, nous le verrons peut-être, sur le développement de la musique profane.
Et oserais-je une question toute personnelle, Michel Zinc, médiéviste certes, donc intéressé, mais vous personnellement, vous aimez la musique et quel genre de musique ?
Oh, j'aime beaucoup le grégorien. Je ne peux pas dire, au risque de choquer mes collègues et les musicologues, que la musique profane du Moyen-Âge est ce que j'écoute comme ça le plus volontiers quand je peux écouter ce que je veux. Enfin, j'écoute plutôt Schubert, qui est mon musicien préféré. Mais enfin, c'est très joli, je pourrais vous en chanter. Si je chantais mieux des chansons de troubadour, c'est très bien.
Ce sera sans doute pour une prochaine fois. Donc, Michel Zinc, la musique, c'est d'abord du son, c'est donc de l'oral. Et puis un jour, comme ça, au Moyen-Âge, on s'est dit, mais il faut qu'on note tout ça. Est-ce que ça veut dire que la transmission orale s'était affaiblie, que la mémoire des gens commençait à ne plus être si fiable, ou est-ce que c'est parce qu'on a trouvé...
Je ne le pense pas. C'est parce qu'il y a eu une réflexion sur la musique, il y a eu des théoriciens de la musique, et il y a eu des musiciens qui ont inventé, qui ont perfectionné le système de notation avec cette invention décisive dans le courant du XIe siècle qui est l'invention de la portée et de la clé. auparavant, il y avait bien une notation, et même une notation très précise. La notation par les neumes, la notation neumatique, avec des groupes de notes. Mais cette notation se faisait sans portée et sans clé.
C'était une indication, simplement.
C'était une indication, c'est-à-dire que quand on connaît déjà la mélodie, on peut, à l'aide de cette notation neumatique, découvrir des finesses qu'on pourrait avoir oubliées ou qu'on pourrait ignorer. Mais si on ignore totalement la mélodie, il est impossible de déchiffrer une partition neumatique ou neumée. Mais ce qui s'est passé, c'est que, précisément, cette notation servait pour noter le chant grégorien, pour donner la dénomination usuelle habituelle à cette musique. Et ces pièces liturgiques étaient naturellement les mêmes, qui se sont chantées pendant des siècles. Donc, nous avons des manuscrits antérieurs au XIe siècle où ces pièces sont notées avec des neumes. Et puis, à partir de la seconde moitié du XIe siècle, des pièces, des manuscrits où les mêmes pièces sont notées en notation carrée sur des portées à quatre lignes avec une clé d'ut ou une clé de fa. De sorte qu'à ce moment-là, on peut les déchiffrer sans peine. Et à partir du moment où on peut les déchiffrer, on les chante. Et en les chantant, on se reporte aux manuscrits neumés. Et là, on voit que les neumes apporte dans bien des cas des précisions, des détails, des finesses qui avaient disparu dans la notation sur les portées.
Alors, Michel Zinck, est-ce qu'il n'y a pas eu déjà au VIe siècle, parce que là, vous avez déjà parlé du XIe, mais revenons un tout petit peu en arrière.
Je suis désolé de ne pas respecter l'ordre chronologique.
Mais c'est tout à fait votre droit. Est-ce que déjà au VIe siècle, Boès n'avait pas essayé de transmettre de manière écrite, justement, les notations des Grecs
Oui.
Enfin, quel a été son rôle?
C'est vrai, mais Boès est surtout un théoricien. Donc, Boès, premier ministre, en somme, du roi Théodoric de Ravenne, celui du fameux mausolée de Ravenne, arrêté, torturé, mis à mort, et qui a écrit dans sa prison la Consolation de philosophie, qui est un des plus beaux textes du Moyen-Âge, début du Moyen-Âge, mais qui a influencé tout le Moyen-Âge. Boès a écrit un traité de la musique qui est extrêmement important, mais qui est plutôt un traité... Non, c'est injuste de dire que c'est un traité uniquement de philosophe et de théoricien, parce que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la musique et qui la pratique. C'est assez différent, maintenant, du traité de Saint-Augustin sur la musique, qui est tel que nous connaissons, un traité de métrique, en fait. Mais Boès est un philosophe néoplatonicien et néopythagoricien, et sa conception de la musique est une conception extrêmement générale en relation avec la loi générale de l'univers. Et comme les pythagoriciens, ils distinguent dans la musique l'harmonie des sphères, cette musique du monde, les astres tournent et dans leur révolution, ils produisent une musique mais si subtile que l'oreille humaine ne peut pas la percevoir. On disait que Pythagore lui pouvait percevoir la musique des sphères, mais enfin. Et puis, une musique matérielle, en somme humaine, qui est notre musique, la musique sensible, et aussi une sorte d'harmonie intérieure, de musique intérieure, qui est l'harmonie intérieure de l'homme quand il est sage, équilibré, et quand sa personnalité est en somme en accord avec l'harmonie du monde et l'harmonie des sphères. C'est la théorie du macrocosme et du microcosme. Et, si je peux ajouter, les commentateurs, donc Boès distingue une musique du monde, une musique, etc. Et ces commentateurs, au cours du Moyen-Âge, ont modifié sa théorie pour faire de la musique du monde une musique céleste et dire que ils ont un peu oublié l'harmonie des sphères pour privilégier la musique des chœurs célestes, du chœur des anges autour du trône de Dieu. Et à ce moment-là, ça a redonné une importance extrême à la musique sensible, à notre musique, parce que pour eux, la musique sensible, c'est une sorte d'équivalent en ce monde de cette éternelle louange de Dieu, ce qui donnait une dignité immense précisément à la musique sacrée et à ce chant grégorien.
Absolument. Alors, est-ce que justement après, alors d'une manière sans doute un peu plus politique, on ne doit pas aussi beaucoup, la musique ne doit pas beaucoup à l'influence de Charlemagne et à son désir d'unifier au fond par une écriture que tout le monde comprendrait dans tout l'Empire. Est-ce que c'est cela son objectif ?
Oui, il y avait, l'Église a eu des hymnes depuis Saint-Ambroise, enfin depuis toujours. Mais la musique liturgique s'est surtout développée à partir de la fin du VIe siècle et on attribue la compilation de toutes les pièces musicales de l'époque au pape Grégoire le Grand, d'où le nom de Grégorien, que nous donnons à cette musique. Donc elle se développe à partir de la fin du VIe siècle, au VIIe siècle, et au temps de Charlemagne, elle est déjà largement constituée, mais avec des différences. Ce qui choque Charlemagne, ce sont moins les différences musicales, ou probablement les différences de notation. Il y avait une notation lorraine ou messine, une notation aquitaine, etc., que les différences dans le déroulement des offices, les différences proprement liturgiques, et qui donnaient lieu à des dérapages, à des parfois on frôlait l'hérésie, enfin tout ce qu'on voit dans les moments d'effervescence liturgique et ce qu'on a pu constater avec le dernier après le dernier concile. Et du coup, c'est pour remettre de l'ordre dans tout cela qu'il est intervenu et la réforme ou la mise en ordre musicale, de sa part, a plutôt été une sorte de conséquence d'une mise en ordre liturgique.
Est-ce que le musicien ou le chantre au Moyen-Âge jouissait d'un statut particulier, honoré, comme on aurait pu dire le scribe ? Est-ce que c'est valable ?
Oui et non. C'est-à-dire que le chantre à l'église est un personnage important. Il est très important pour les moines de bien chanter, pour chanter l'office. Il est important que les prêtres chantent bien. Apprendre à chanter fait partie de leur éducation. On le sait, l'enseignement de la musique est un des sept arts libéraux, et l'enseignement de la musique fait partie de l'enseignement du quadrivium et, en somme, du deuxième cycle des études universitaires à partir du moment où elles sont fixées. En revanche, il y a des jongleurs qui ne sont pas honorés du tout, des musiciens qui ne sont pas honorés du tout, qui sont très 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 maltraités.
Vous avez développé ce thème, je crois, dans certains de vos livres, justement, ils étaient traités.
J'ai parlé des jongleurs comme tout le monde, comme nous tous devons en parler. J'ai parlé des jongleurs à cause de cette rencontre, de cette différence, mais est-elle si profonde qu'on l'a dit, entre le poète compositeur, le troubadour, le trouvère, et le jongleur. Elle existe. On voit des troubadours dire qu'ils envoient leurs chansons à un destinataire par l'intermédiaire d'un jongleur. Ils le disent dans le texte même, qui a pris la chanson et puis qui trotte et qui va la chanter.
Transmission
orale. Mais en même temps, nous voyons que à propos des troubadours eux-mêmes, eh bien, leurs contemporains semblent ne pas très bien faire la différence entre leur qualité de compositeur et leur qualité d'interprète. Et on reproche à certains d'avoir une voix faible. D'autres, on dit qu'ils composent de belles mélodies puis qu'ils les chantent bien. Enfin, tout ça va un petit peu ensemble.
On devient critique. Alors, nous allons poursuivre cet entretien sur la musique du Moyen-Âge avec Michel Zinc après une courte pause musicale.
Canal Académie.
Oh, yeah.
retour dans notre émission consacrée à la musique du Moyen-Âge avec Monsieur Michel Zinck, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Monsieur Zinck, au XIIe siècle, 1162, on édifie Notre-Dame de Paris. Est-ce que Notre-Dame de Paris va jouer un rôle particulier dans la musique du Moyen-Âge à cette époque ?
Oui, parce que c'est à Notre-Dame de Paris que se développe cette école musicale qui verra la naissance de la polyphonie et un premier épanouissement de la polyphonie avec ce qu'on appelle l'école de Notre-Dame, avec Pierrotin, etc. Et alors que la France du Sud avait été première, en quelque sorte, pour la naissance de la poésie lyrique, donc d'une poésie chantée, dans le domaine de la polyphonie et de la technique musicale proprement dite, la France du Nord occupe la première place à partir de la seconde moitié du XIIe siècle et vous avez raison, particulièrement à Paris.
Alors, est-ce que on voit apparaître dans cette polyphonie, donc on a quitté le grégorien, on est dans la polyphonie, oui. Est-ce qu'on voit apparaître un mélange entre le sacré et le profane ou c'est toujours de la musique sacrée ?
Alors, au départ, c'est toujours de la musique sacrée, mais la polyphonie, naturellement, se répand dans le monde profane et à ce moment-là, on voit un mélange, en particulier dans le genre très particulier du motet. Le motet est une pièce polyphonique, dans laquelle chaque voix est portée par un texte différent. Et le jeu consiste à mettre ensemble des textes totalement hétéroclites, de sorte que l'une des voix peut chanter une pièce sacrée ou liturgique en latin, hein, et puis la voix haute, une chanson d'amour, et la voix basse, une chanson à boire, toutes les deux en français. C'est très possible.
Alors, très là, amusant le motet, au fond.
C'est très amusant. À l'audition, c'est un peu... Enfin, pour
un peu
moi,
compliqué.
qui suis si mauvais musicien, pas du tout musicien et si mauvais musicologue, c'est un peu déroutant, surtout.
N'a pas dérouté que vous, puisque je pense que j'ai trouvé dans un ouvrage consacré à la musique du Moyen-Âge que le pape Jean XXII, donc je dis les dates 1322, vers 1322-1325, oui, a promulgué une décrétale docta sanctorum pour supprimer justement le motet, au prétexte que le motet ne portait pas à la dévotion parce qu'il heurtait l'oreille.
Oui,
justement.
La décrétale vise ce qu'on appelait l'ars nova, donc ce développement de la polyphonie, pas spécifiquement le motet, en ce sens que le motet, même si l'une des voix récupère une pièce sacrée, est un genre... Enfin, non, il y a des motets sacrés, mais les pièces qu'il visait étaient des pièces entièrement en latin, et dont toutes les voix étaient supportées par un texte sacré et édifiant. On n'allait pas jusque-là dans les églises. Mais tout de même, il trouvait que... alors, ce qui est juste, qu'on entend, qu'on ne comprend pas le texte, lorsque plusieurs textes différents se mêlent, et il considérait que c'était une distraction, ces ornements nouveaux, et que la mélodie, la musique, cette polyphonie était une distraction de la prière, loin d'y aider. Donc,
voilà.
Mais enfin, j'ai lu récemment un article qui dit que cette décrétale avait un sens un petit peu différent, mais j'aurais peur de faire tort à l'auteur de l'article en ne reproduisant pas exactement sa pensée sur ce point.
En tout cas, le pape Jean XXII trouvait que ce genre de musique polyphonique enivrait les oreilles au lieu de les apaiser.
Oui, c'était
qu'est-ce que dirait-il aujourd'hui alors ?
Ah oui, mais c'est le pape qui a condamné les franciscains spirituels. C'est le pape du nom de la rose.
C'est Jacques de Cahors.
Jacques de Cahors.
Donc un pape un peu rigoriste alors.
Un pape autoritaire.
Autoritaire.
Oui.
Je voudrais aussi citer un auteur, donc début du XIVe siècle, Jean de Murs, qui a écrit justement des écrits sur la musique et qui dit « Qu'est-ce que la musique ? C'est l'art maîtresse, mais ça au féminin, des arts. C'est l'art maîtresse des arts. »
Oui, alors art, c'est un mot féminin en latin. Très longtemps, le mot a été féminin en français aussi.
Elle contient tous les principes qui fondent la pratique. Elle siège au premier degré de la certitude. Elle se déploie harmonieusement, d'une admirable manière, dans la nature des choses. Elle est un délice pour l'esprit et une douceur pour l'oreille. Elle réjouit les tristes et comble les avides, elle confond les envieux et réveille le dormeur, elle nourrit l'amour et exalte le riche, elle a pour juste fin d'être instituée à la louange de Dieu. Donc début du XIVe siècle, la musique, c'est toujours pour Dieu.
Voilà. Et alors, bon, Jean de Mur, c'est musicien, chaque spécialiste fait l'éloge de sa spécialité. Mais ce qui fonde ce bel éloge, c'est effectivement la fin. C'est la louange de Dieu, c'est parce que l'harmonie du monde et le cœur des anges louent Dieu par l'harmonie musicale, hein, que la musique peut être considérée par lui comme la reine des arts. Elle l'est aussi, il y fait allusion sans le développer, parce que la musique englobe en elle tous les arts, puisque c'est un art du nombre. L'harmonie musicale repose sur des rapports de nombre, c'est l'idée pythagoricienne, hein, et donc la musique est un art mathématique et participe de la noblesse des mathématiques.
Michel Zinck, merci infiniment pour toutes ces explications concernant la musique du Moyen-Âge. Je voudrais rappeler que vous dirigez la collection Lettres gothiques au Livre de Poche et que vous venez de publier un volume qui reprend donc le roman d'Apollonius de Tyr, dont vous êtes l'éditeur et le traducteur. Alors, qui est Apollonius de Tyr? En deux mots, s'il vous plaît.
L'histoire d'Apollonius de Tyr, nous la connaissons par une sorte de roman en latin du VIe siècle qui remonte, on en est à peu près sûr, à un original du IIIe siècle qui était probablement en grec. Et cela raconte les errances d'un héros qui s'appelle Apollonius de Tyr autour de la Méditerranée, poursuivi par la haine du méchant roi Antiochus qui avait violé sa fille, enfin bon, une histoire affreuse. Et puis il a des tas de malheurs, des tempêtes, des naufrages, il est séparé de sa femme, de sa fille, il les retrouve, il manque ne pas reconnaître sa fille et ça aurait pu se terminer
mon
mal
Dieu,
de la même façon.
Oh,
enfin,
Dieu.
Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et cette histoire a eu un succès prodigieux pendant tout le Moyen-Âge.
Le best-seller du Moyen-Âge.
C'était un best-seller du Moyen-Âge. Elle est citée dès le 7e siècle comme quelque chose que tout le monde connaît. On en a un nombre de manuscrits énorme en latin. Et elle a été traduite ou adaptée ou modifiée dans toutes les langues de l'Europe médiévale, donc de l'Occident médiéval. Et moi, j'ai édité une version française du XVe siècle qui est enrichie de toutes sortes d'épisodes et qui n'avait pas été édité jusque-là. C'est pour ça que je l'avais prise. Mais c'est plaisant, Apollonius de Tyr.
Alors, on va s'empresser de lire Apollonius de Tyr.
Il y a un rapport. on l'a mis en rapport avec l'histoire de Tristan et Iseut. Enfin, il y a des rapprochements. En effet, la légende de Tristan s'en est sans doute inspirée. Et à l'époque, les deux légendes étaient aussi connues l'une que l'autre.
Et puis, M. Zinck, vous avez aussi publié récemment, donc en 2006, chez Fayard, Nature et poésie au Moyen-Âge. J'espère qu'on aura une opportunité d'en parler ensemble. En tout cas, je voulais vous remercier de votre présence à Canal Académie pour nous avoir éclairé sur la musique du Moyen-Âge. Merci beaucoup.
Merci à vous. Thank you.